Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir à l'affrontement entre Israël et Iran. À l'ordre du jour ce soir, les Palestiniens vont-ils faire les frais du conflit entre l'Iran et Israël? Pour la première fois, dans la nuit de samedi à dimanche, l'Iran a envoyé depuis son territoire 300 drones et missiles sur Israël. Cette attaque, baptisée par Téhéran « Promesse honnête », a été justifiée par l'Iran comme, je cite, « une réponse aux nombreux crimes commis par le régime sioniste, notamment l'attaque contre la section consulaire de l'ambassade iranienne à Damas, le 1er avril dernier, qui avait fait 7 morts, dont 2 généraux des gardiens de la Révolution ». Un tel communiqué ne s'attarde pas en revanche sur le sort des Palestiniens, en particulier les Palestiniens de Gaza. Les réactions de certains pays arabes de la région ont d'ailleurs remis en avant une opposition de la Jordanie et de certains pays du Golfe à l'Iran, tandis que l'attaque sur Israël était applaudie de son côté par ses alliés traditionnels, ce qu'on appelle maintenant ses proxys, dont les Houthis du Yémen et le Hezbollah. Nous discutons de cette question en compagnie de 3 invités. Éric Danon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien ambassadeur de France en Israël de 2019 à l'année dernière, en 2023. Anouar Abouaïché, vous êtes avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être là. Vous êtes ancien ministre de la Culture de l'Autorité palestinienne et professeur de droit. Et Christophe Ayad, bonsoir.
Bonsoir.
Grand reporter au journal Le Monde, auteur du livre Géopolitique du Hezbollah qui a été publié le mois dernier aux éditions PUF.
Une nuit pleine de peur et de tension a été vécue par la majorité des Jordaniens pour la première fois de leur vie, après que le ciel du royaume a été témoin de l'interception d'un groupe de missiles iraniens en route vers le territoire israélien. L'état de peur s'est accru après la chute d'un de ces missiles dans le quartier de Marj al-Hammam, au sud de la capitale Amman, qui a déclenché un état de panique, comme le décrit Ismaël, un des habitants de ce quartier.
Ça a été une nuit terrifiante pour nous. C'est la première fois que ça se produit en Jordanie. Les enfants ont eu peur et se sont cachés à l'intérieur des maisons. Et puis la police et les autorités sont arrivées pour enlever les restes du missile au sol.
Pour sa part, l'expert militaire Omar al-Rahed a estimé que ce à quoi la Jordanie a assisté était une escalade militaire qui pourrait entraîner la région entière dans une dangereuse guerre régionale.
Cette attaque iranienne a placé la région et l'Iran dans une confrontation directe avec les États-Unis et Israël et a rendu désormais très difficile tout dialogue pour une résolution de la crise sans escalade militaire.
C'était un reportage de Mohamed Erami en Jordanie au lendemain de l'attaque lancée par l'Iran contre Israël. Une confrontation directe, est-ce que vous pensez effectivement que d'une certaine manière c'est le terme qu'il faut utiliser, Éric Danon, pour pouvoir évoquer ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche?
Écoutez, la confrontation est directe dans la mesure où c'est la première fois que l'Iran attaque directement Israël et de cette façon-là. Maintenant, le niveau de la confrontation, je pense que l'Iran savait parfaitement que tout ce qu'il lançait sur Israël serait arrêté. Et donc, il y a là une espèce de théâtralité de ce qu'il a fait, qui fait que maintenant les deux options sont ouvertes. Israël réplique ou Israël considère, comme l'Iran le dit publiquement, que l'affaire est close. Je pense personnellement que Israël va répliquer. Après, nous verrons bien comment, à quel moment, etc. Mais les deux options sont possibles. Personne n'a de boule de cristal, la réflexion est en cours. Personnellement, je pense qu'ils vont répliquer.
Anouar Abouaïché, je rappelle que vous avez été ministre de la Culture de l'Autorité palestinienne. Est-ce que le fait que justement cette attaque ait été justifiée par l'Iran, sans mentionner la question palestinienne, mais simplement parce que c'était une façon de répliquer à cette attaque israélienne, supposée israélienne parce qu'elle n'avait pas été revendiquée, sur Damas, et en particulier avec la mort de deux généraux des gardiens de la Révolution, est-ce que cela a dit quelque chose, peut-être, de l'idée que ça n'est pas, disons, la cause palestinienne qui est première dans cette attaque?
Vous savez, actuellement, plus que jamais, toute notre intention est guidée par ce qui se passe à Gaza. Il y a un processus génocidaire à Gaza. Depuis plus que 6 mois, personne ne l'a arrêté. Ça continue sous les yeux de tout le monde, surtout les décideurs en Occident, et personne n'a pu l'arrêter. Donc, ce qui se passe entre l'Iran et Israël, je suis assez d'accord avec M. Danon que c'est vraiment théâtral. Ça n'apporte rien à la cause palestinienne. Par contre, ça sert Netanyahou, ça sert le gouvernement israélien pour continuer et reconstituer une alliance apparente cette fois-ci. Bon, avant c'était sous la table, maintenant c'est une alliance apparente.
Avec qui alors ?
Avec l'Occident surtout, les États-Unis et la France.
Mais aussi la Jordanie, mais aussi les pays du Golfe, les Émirats Arabes Unis, etc. Voire l'Arabie Saoudite.
Il y a beaucoup de régimes qui ont pour leur première préoccupation est de rester au pouvoir et de rester bien avec les Américains, qui décident pour nous tous, y compris pour l'Europe, je dirais. Maintenant, je ne sais pas jusqu'à quel degré, en tout cas, ça complique encore la fin du génocide à Gaza.
Et pour vous, Christophe Ayad, est-ce que vous pensez justement que cette attaque n'a pas pour but justement d'avancer dans la résolution d'un conflit entre Israël et le Hamas, mais d'une certaine manière à d'autres fonctions ?
Alors, on ne peut pas dire qu'elle contribue à avancer dans la résolution du conflit entre Israël et le Hamas. Mais moi, le fait que le guide suprême et les autorités iraniennes ne mentionnent pas les Palestiniens dans leur communiqué, montrent à quel point il y avait un enjeu intérieur et pour les dirigeants iraniens dans cette frappe. C'est-à-dire il s'agissait vraiment de ne pas perdre la face, d'abord face à sa propre population. C'est un régime affaibli, qui est contesté dans la rue depuis un an et demi. Alors, bon, il n'y a plus de grandes manifestations, comme c'était le cas au lendemain de la mort de Mahsa
Amini,
mais il y a un mécontentement généralisé. Et ne pas perdre la face face à ses alliés aussi, ce qu'on appelle l'axe de la résistance. Parce que depuis le 8 octobre, le Hezbollah et Israël s'envoient des roquettes, même si c'est de façon relativement contrôlée, par-dessus la frontière. Les Houthis tirent des missiles, les milices chiites irakiennes ont un temps, en tout cas, visé les intérêts américains dans la région. L'Iran, sauf faire des communiqués, il faisait rien. Donc, c'était une manière de dire « nous restons les chefs de file de l'axe de la résistance ». Et c'était une manière de dire à la population « on ne peut pas s'en prendre à nous impunément ».
D'ailleurs, Éric Danon, est-ce qu'on sait exactement le type de groupe et le nombre de groupes qui suivent plus ou moins cet axe de la résistance, que ce soit en Irak, que ce soit en Syrie ou ailleurs ? Est-ce qu'on a une petite idée de ceux qui sont, affiliés ou affidés de l'Iran dans la région ? Ou est-ce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisqu'on cite souvent le Hezbollah ?
Vous avez énormément de groupes dans la région. Si vous allez de l'est de l'Irak jusqu'à l'ouest de la Syrie, vous pouvez décompter entre 400 et 500 groupes qui ont des allégeances avec tel ou tel, qui peuvent être des groupes de 5 personnes ou de 10 personnes, jusqu'à des groupes plus importants avec de l'armement plus important. C'est une grosse nébuleuse, pourrait-on dire. Alors, aujourd'hui, vous avez clairement des affrontements qui ne sont même plus chiites, sunnites depuis bien longtemps, qui sont des positionnements et des concurrences entre les groupes pour montrer qu'ils participent à un combat plus ou moins global, étendu ou plus ou moins localisé suivant les cas, et où il y a toujours derrière un enjeu autour de la cause palestinienne. Mais elle est, j'allais dire pas récupérée, mais elle est instrumentalisée par tous ces groupes pour se mettre en avant et faire tel ou tel type d'action. Alors après, les services spécialisés dans le décomptage de tous ces noms, de tous ces gens, savent très bien, plus ou moins bien, ce qu'il en est. Mais il faut prendre les choses plus globalement. Ils ne sont pas vraiment contrôlés. Ils ont une très grande autonomie, mais ils font tous partie d'un écosystème qui, idéologiquement, les rassemble.
Et vous qui avez travaillé sur le Hezbollah spécifiquement,
très manipulé par tout le monde. Quoi.
Oui, c'est ça.
Il y a toutes sortes de manipulations.
Ils ont besoin d'argent et d'idéologie.
Vraiment toutes sortes de manipulations dans ce groupe-là.
Oui, et vous qui avez travaillé spécifiquement, Christophe Ayad, sur le Hezbollah, pour cette géopolitique du Hezbollah qui vient tout juste de sortir au PUF, vous expliquez extrêmement bien comment le Hezbollah a progressivement pris la cause iranienne, enfin suivi la cause de la révolution iranienne, avec des allers-retours parfois qui n'ont pas été aussi clairs que cela. Mais néanmoins que maintenant, il y a véritablement une alors je ne sais pas si c'est le terme d'allégeance qu'il faut utiliser, mais enfin une relation très très forte entre les chefs, et en particulier Ali Khamenei en Iran, et les responsables du Hezbollah au Liban.
Alors je me permettrai de ne pas être d'accord avec vous. Allez-y. Sur un point, c'est que le Hezbollah a toujours été d'accord avec l'Iran. Toujours.
Oui.
C'est une création de l'Iran.
Bien sûr, mais vous expliquez dans ce livre tout de même qu'à certains moments, ils ont pu se retirer, par exemple, au moment de chez Khatami, quand c'était Khatami qui était président, parce qu'ils n'étaient pas tout à fait d'accord avec la ligne verte de Khatami.
Mais par contre, ils ont toujours suivi la ligne du guide, en fait.
Oui.
C'est pour eux, celui qui compte, c'est le guide suprême, Ali Khamenei, et avant lui, l'Ayatollah Khomeini.
Oui, voilà.
En fait, le Hezbollah n'est pas un groupe allié à l'Iran, c'est un groupe créé par l'Iran.
Affidé, vraiment.
Vraiment. Je veux dire, parmi les fondateurs, il y en a 4-5, il y a l'ambassadeur d'Iran à Damas, qui Ali Mortachemi Pour, qui était un disciple et un ami de personnel de Khomeini. Donc c'est vraiment, à l'été 82, c'est des dirigeants iraniens qui ont eu cette idée et qui était un peu poussé par une demande de jeunes chiites très anti
expliquait très bien ça.
Voilà, anti-israélien. Le Hezbollah, lui, contrairement à certains groupes qui gravitent en Irak, en Syrie et qui sont un peu désordonnés, qui en font un peu qu'à leur tête, je pense aussi aux Houthis du Yémen qui sont difficiles à lire, enfin qui ont leur propre agenda, le Hezbollah, lui, il est sur une ligne très très claire, pro-iranienne. Il défend les intérêts de l'Iran. Il ne défend pas que les intérêts de l'Iran. Il défend aussi les intérêts du Liban, parce qu'il est devenu tellement puissant que, en fait, aujourd'hui, c'est le pouvoir principal au Liban. Et c'est un peu son problème aujourd'hui, c'est que il peut pas défendre que l'Iran. Il défend le Liban.
Et pour justement évoquer le thème qui nous rassemble aujourd'hui, c'est-à-dire la place des Palestiniens dans ce grand échiquier, justement, est-ce que le Hezbollah utilise ou instrumentalise, comme le disait Éric Danon tout à l'heure, la cause palestinienne à un moment ou à un autre, ou est-ce que ça peut être disjoint d'une certaine manière, Christophe Ayan?
Ben, ça peut être un peu disjoint, on l'a vu depuis le 7 octobre, il y a une solidarité avec le Hamas, mais ça va pas plus loin. Le Hezbollah ne veut pas se sacrifier pour le Hamas. Le 8 octobre, ils ont tiré quelques roquettes, ils ont continué le 9, le 10, et puis pendant 3 semaines, 1 mois, et à partir d'un mois, c'est plutôt Israël qui a pris le lead, d'une certaine manière. C'est-à-dire, les ripostes sont devenues beaucoup plus fortes que les coups portés par le Hezbollah. Et depuis, le Hezbollah ne fait que lui-même riposter en essayant de contenir sa réponse pour ne pas entrer dans un conflit ouvert. Il ne veut pas, aujourd'hui, entrer dans un conflit ouvert pour défendre le Hamas ou pour se sacrifier pour les Palestiniens. Son objectif, il est autre.
Éric Danon, et puis tout de suite après, Anouar Abouéché.
Oui, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je peux ajouter qu'il est aussi sous cette idée, donc sous cette pression d'Israël, car la situation est telle que beaucoup d'Israéliens du nord du pays sont actuellement au centre du pays, que économiquement ça coûte très cher, et que l'idée c'est que pour qu'ils puissent remonter chez eux, il va falloir aller taper sur le Hezbollah. Et donc, et le Hezbollah le sait parfaitement. Donc il y a aussi cet aspect-là, c'est que il n'a pas envie d'être sacrifié à son tour, car quelque part, mais ça, il y a d'autres spécialistes, je considère que le Hamas a été assez sacrifié dans l'histoire, dans l'affaire du 7 octobre, et que...
Et qu'est-ce que vous voulez dire par sacrifié?
Parce que
qu'on ne le pense pas comme ça quand on le regarde des...
Exactement. Non, parce que, en fait, il s'est lancé dans une attaque qui a eu des conséquences en Israël bien plus fortes sans doute qu'il ne l'imaginait au début, que le traumatisme est très fort en Israël, et que donc la détermination des Israéliens à aller très loin dans la destruction, entre guillemets, elle ne sera pas complète, la destruction du Hamas est plus forte que jamais. Voilà.
Anouar Abouéché, quand on vous lit et quand on lit ce que vous avez toujours dit d'une certaine manière en tant qu'ancien ministre de la Culture de l'Autorité palestinienne, il y a cette question de savoir si, au bout du compte, les Palestiniens considèrent soit l'Iran, puisque c'est lui qui a lancé ses missiles sur Israël, soit les alliés de l'Iran et le Hezbollah, comme des soutiens fermes de la cause palestinienne, ou est-ce que c'est plus compliqué que cela ?
Évidemment que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Maintenant, il y a une infime partie du peuple palestinien qui considère que l'Iran, c'est un allié. Mais en tout cas, l'ensemble des Palestiniens, et surtout l'homme de la rue en Palestine, sait que la cause palestinienne est utilisée par toutes les forces politiques, de droite comme de gauche, comme d'extrême droite, et par les régimes arabes, soit pour rester au pouvoir, soit pour se faire une crédibilité auprès de la population. Mais nous ne faisons pas d'illusions quant à toutes ces forces. La preuve, depuis le 7 octobre, on n'a pas vu vraiment un soutien réel pour stopper le génocide. On a eu quelques miettes d'aide humanitaire, comme on dit, mais réellement, et sur le terrain, personne, ni Biden, ni l'Europe, ni la Chine, ni la Russie, n'arrive à stopper.
Et comment ?
Ni l'Égypte, ni la Jordanie, effectivement.
Personne n'a réussi à obliger Israël à cesser de massacrer les populations palestiniennes à Gaza et à détruire. Actuellement, à Gaza, c'est vraiment... Et surtout, qu'en général, on découvre le génocide et le massacre après, et on les commente. Maintenant, on les voit en direct. Maintenant que je suis en train de parler avec vous, sans doute, il y a des Palestiniens qui sont en train de mourir à Gaza. Il y a aussi, pour la première fois, des fonctionnaires humanitaires qui ont été visés par l'armée israélienne, et c'était, bon, un dommage collatéral. En fait, le vocabulaire de l'Occident, maintenant que ce soit par rapport aux droits de l'homme, ou aux libertés, ou aux dommages collatéraux, ou tout ce que vous voulez, nous croyons que c'est une totale hypocrisie.
Et par ailleurs, effectivement, j'imagine que c'est la même chose, parce que quand vous pensez à l'Iran, vous dites qu'ils soutiennent évidemment le Hamas, par exemple, ou ils aident le Hamas.
Un soutien limité, c'est clair.
Enfin, mais d'une certaine manière, pas le peuple palestinien.
C'est-à-dire que je crois que ces régimes-là, leurs intérêts d'abord, c'est pas le peuple palestinien qui est l'objet de soutien actuellement. Il y a un soutien politique à une partie du peuple palestinien, et d'ailleurs, ce qui s'est avéré, pas total.
Éric Danon.
Oui, d'abord, un petit mot juste en amont sur l'utilisation du terme génocide et... C'est un terme qui relève quand même du droit et moi j'attends quand même de voir si la Cour internationale de justice, à la fin de son enquête en cours, qualifiera ce qu'Israël fait ou a fait de génocide. Je suis très prudent sur l'utilisation...
Pour l'instant, les termes utilisés, c'est le processus... C'est processus génocide.
Oui, parce que je relis le génocide à la Convention sur le génocide, mais je tourne pas autour des mots, de la même façon que si vous ne condamnez pas le Hamas, moi je considère
nous
que...
Nous condamnons tout ce qui est contre les civils.
Oui, mais je veux dire, je considère que c'est un acte terroriste qui est une appréciation politique, pour le coup. Chacun peut avoir une appréciation politique de résistance ou de terrorisme. Bon, ça c'est sur le côté. Non, ce qui est intéressant, je trouve, dans la réaction, depuis longtemps d'ailleurs, des pays arabes, j'allais dire méditerranéens, sur la question, c'est qu'en fait... Ils ne s'intéressent pas vraiment au sort des Palestiniens en tant qu'individus, mais ils s'intéressent au conflit. Et le conflit, c'est central pour eux, sauf que je constate qu'ils ne font pas grand-chose, voire rien, pour que ce conflit s'arrête. Et je pense de plus en plus, l'âge venant, qu'ils ont intérêt à ce que le conflit continue. Et si je m'explique là-dessus...
C'est-à-dire que le règlement de la cause palestinienne ne soit pas complet et qu'il soit toujours incomplet.
Exactement. C'est-à-dire qu'il y aura... Il considère que... Pourquoi ? Pour trois raisons principales. Je vais très vite. La première, c'est que le rejet d'Israël, c'est ce qui les maintient entre eux au niveau gouvernemental. Que les populations du monde arabe soient pro-palestiniennes, c'est bien. Mais si vous regardez le gouvernement algérien, le gouvernement marocain, le gouvernement... Ils ne s'aiment pas entre eux, clairement. Et qu'est-ce qui les relie entre eux ? J'allais dire l'ennemi commun. Il faut pouvoir désigner en permanence Israël comme l'ennemi commun. Et pour ça, il faut que le conflit continue. Première raison. La deuxième chose, c'est que vous avez... Israël est empêché de se développer, quelque part, à cause du conflit israélo-palestinien, parce qu'il y a une pression internationale, le BDS et d'autres choses, etc. Imaginez un instant que le conflit soit réglé. Israël devient une vraie superpuissance, ce qui est problématique aussi pour les pays arabes. Enfin, dernière chose, il y a un problème qui est plus psychologique, le concept de dimitude, c'est-à-dire l'idée que les Israéliens, donc des Juifs, donc des non-musulmans, peuvent faire mieux que des musulmans en terre d'islam. Vieille affaire qui date de très longtemps. Pour toutes ces raisons, je crois sincèrement que les pays arabes de la Méditerranée ne sont pas intéressés au règlement du conflit.
Est-ce que...
Moi, je crois...
Allez-y.
C'est surtout l'envie et l'intérêt de rester au pouvoir. Je ne sais pas si les chefs arabes et le régime arabe sont capables de réfléchir de cette manière. Je crois qu'ils ont envie surtout de rester au pouvoir et donc de ne pas fâcher les Américains. Maintenant, le soutien du Maroc n'est absolument pas de la même manière que le soutien de l'Algérie à la Palestine.
Non, bien sûr.
Donc, je crois que c'est surtout les intérêts particuliers de ces régimes et
alors,
de ces
politiques. S'il y a un régime qui n'a pas beaucoup changé, c'est le régime iranien autour de la question de la cause palestinienne et de la cause iranienne. En tout cas, de la volonté que Israël ne continue pas.
J'aurais tendance à considérer que, finalement, il peut y avoir un point commun entre sunnites et chiites, et entre saoudiens et iraniens. Il y a une chose sur laquelle ils s'accordent, et ils ne le diront jamais, c'est que Jérusalem, c'est trop beau pour les Palestiniens. C'est-à-dire que...
Ah bon? Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Parce que y compris le Hezbollah. C'est-à-dire, c'est une cause qui est trop grande pour être donnée aux Palestiniens. Si Jérusalem était capitale de deux États, y compris de l'État palestinien, les autres pays arabes seraient extrêmement vexés et énervés. Je veux dire, posséder le troisième lieu saint de l'islam, pour les Saoudiens, des Palestiniens, c'est pas possible. Mais pour les Iraniens, non plus. Je pense que eux se vivent comme un centre Jérusalem ne peut pas aller à un petit peuple qui n'a pas tellement de considération de la part de ces deux grands peuples que sont l'Arabie Saoudite ou bien l'Iran.
Une réaction, vous souriez en l'occurrence à Noa Bouaïché, vous souriez pourquoi?
Oui, je
dis pas que je partage ce point de vue, mais je dis que c'est comme ça qu'il le voit.
Parce que notre Jérusalem, bon, ça occupe tout son monde à ce point, et puis en plus, nous avons en Palestine Abraham et ses enfants, à Hébron, chez moi.
Je rappelle que vous êtes né à Hébron.
Oui, je suis né à côté d'Abraham, le père de tous ces prophètes. Et actuellement, que ce soit la mosquée d'Abraham ou l'esplanade de l'Aqsa, c'est occupé par les Israéliens et totalement. Et les Palestiniens sont interdits d'accès souvent à ces lieux saints. Donc oui, mais c'est pas un conflit religieux quand même, c'est un conflit politique, mais il y a des effets qui touchent les lieux saints et les symboles de religion.
Oui, Éric Danon.
Moi, mais c'est une conviction personnelle, hein, tout à fait discutable. J'ai l'idée que dans la normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite, sur laquelle tout le monde travaille, et surtout les Américains, mais qui intéressent les deux côtés, Israël et l'Arabie Saoudite.
Et d'ailleurs,
Mais justement, on va voir les Iraniens, les Saoudiens, les Pakistanais, les Américains et tout ça, et nous, le peuple palestinien sous occupation, personne ne nous intéresse à nous. On ne nous demande même pas notre avis.
Non, justement, je crois que le seul qui s'y intéresse parmi tous les pays arabes, réellement, c'est l'Arabie Saoudite. C'est lui, ses déclarations, il a dit, lorsqu'il y aura eu normalisation entre l'Arabie Saoudite et Israël, un an après, il a dit, il y aura un État palestinien. C'est-à-dire qu'il y a un vrai intérêt.
Et d'ailleurs, il a interprété, d'après ce qu'on croit comprendre, il a interprété, effectivement, le 7 octobre, comme étant peut-être une façon de retarder.
De retarder, absolument. Voilà. Alors, mais derrière ça, pourquoi est-ce qu'il fait tout ça? Pourquoi ça l'intéresse? C'est qu'au-delà de ce qu'il pourrait faire pour les Palestiniens ou avec eux, dans le cadre d'une reconstruction ou d'une construction d'un État. À mon avis, mais c'est personnel, c'est la mosquée qui l'intéresse. C'est Al-Aqsa.
Al-Aqsa.
Pour avoir le troisième lieu saint. Dégager, j'allais dire, les Jordaniens du circuit, du Waqf, le plus possible, et s'affirmer ainsi comme la vraie puissance du Proche-Orient. C'est pour ça que, enfin, il a une vision, il veut à la fois être partie prenante du règlement, entre guillemets, de la question israélo-palestinienne, et récupérer la dimension religieuse de ce qui se passe actuellement autour de Jérusalem.
Alors, monsieur l'ambassadeur a commis la faute, quand il était ambassadeur en Israël, de ne pas venir voir Hébron et la mosquée d'Abraham. Pourtant, Abraham, vous aurez vu la mosquée, comment elle est divisée et tout. Alors, je crois que je ne suis pas le seul Palestinien qui est allergique à tous les tailleurs occidentaux, philosophes, penseurs et tout ça, qui sont en train de tailler des costumes pour la Palestine. Peut-être c'est un tel costume ou un tel costume. Alors j'ai envie de
résumer. Et les occidentaux, et y compris, comme le dit Eric Danon, aussi arabes, des pays arabes, qui sont aussi en train de tailler peut-être des costumes.
Ils sont incapables. Ouais. Mais bon.
Alors par provocation, est-ce que les Palestiniens peuvent aujourd'hui assurer une gouvernance à eux tout seuls, sans les soutiens extérieurs de type Arabie Saoudite ou d'autres.
De toute façon, on vit dans un monde mondialisé. Hein. On est obligé même de s'organiser et de coopérer avec Israël pour arriver à un État indépendant. Non, mais ce que j'ai envie de dire, s'il vous plaît, surtout, prenez en considération que nous, les Palestiniens, on est un peuple qui a envie d'avoir des élections, qui a envie d'avoir une indépendance, qui a envie que la guerre s'arrête, qu'on arrête de massacrer des Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza, qu'il y ait moins de colonies, qu'il y ait un respect de droit international, tout ça. Mais tout ça, c'est nous. Et c'est avec les Israéliens. Les Israéliens ne peuvent faire la paix qu'avec nous, d'abord. Sinon, on sera toujours là, en résistance, jusqu'à la victoire.
Est-ce que vous voulez dire que chaque fois que des pays qui ne sont pas Israël et donc la Palestine essayent de se mêler de cette affaire, c'est toujours au détriment des Palestiniens?
C'est à l'évidence dans les intérêts de ces forces et de ces États. C'est pas le peuple palestinien qui est leur premier intérêt. Mmh. C'est surtout leurs intérêts, que ce soit l'Occident ou le reste.
Christophe Ayad.
Oui, après là, on est un peu loin parce que je ne vois pas de sortie proche du conflit. Donc on parle de règlement, mais dans quel état sera la Palestine à l'issue de ce conflit dont on ne sait pas comment on pourra en sortir, puisque Biden n'arrive pas, visiblement, à imposer à Netanyahou un arrêt des opérations à Gaza. Il n'arrive pas non plus, probablement pas, il n'arrivera probablement pas, comme disait l'ambassadeur Danon, à lui imposer une absence de riposte contre l'Iran. Ce qu'il pourra imposer, c'est une riposte limitée, parce que sans les États-Unis, Israël est condamné à faire, un coup dur probablement contre les Iraniens, mais pas un coup décisif. C'est-à-dire, sans l'appui aérien militaire américain, Israël ne pourra pas détruire l'ensemble des installations nucléaires, l'ensemble des installations des gardiens de la Révolution.
Ils ont déjà détruit tout Gaza.
Non, oui, mais Gaza, excusez-moi, mais l'Iran, c'est beaucoup plus grand que Gaza. Beaucoup, beaucoup plus grand.
Éric Danon, monsieur l'ambassadeur.
Je pense que s'il y a frappe contre l'Iran un jour, contre les installations nucléaires, ça, c'est une vraie escalade, bien entendu.
Ah ben là, par exemple, entrera
À ce moment-là, vous aurez, à mon avis, plutôt une attaque d'Israël, avec pas forcément du soutien international, mais le soutien international sous forme d'une coalition, est indispensable à Israël pour la suite de son opération, c'est-à-dire pour empêcher la réplique de l'Iran. Il peut aller taper, pardon de l'expression, sur les installations nucléaires iraniennes, mais Israël ne peut pas tenir longtemps tout seul contre un État comme l'Iran, qui est évidemment plus peuplé, très puissant, qui a l'habitude de se battre, etc. La seule possibilité, c'est de constituer une coalition de pays qui diront aux Iraniens, vous avez été attaqué par Israël, on va essayer, bon, on va voir la suite, mais vous ne pouvez pas attaquer Israël en retour. Parce que vous vous heurterez à nous.
Mais là, je pense que c'est là que le Hezbollah entrera en scène. C'est-à-dire que, pour moi, enfin, c'est une analyse, elle vaut ce qu'elle vaut, peut-être qu'elle ne se vérifiera pas, c'est pas forcément souhaitable, mais le Hezbollah sert d'arme de dissuasion à l'Iran par rapport à son programme nucléaire. Et si le programme nucléaire est touché ou atteint ou détruit, là, le Hezbollah entrera en scène, 100% et d'accord. C'est beaucoup plus compliqué pour Israël de se défendre d'une attaque du Hezbollah, parce que c'est plusieurs milliers de roquettes par jour qui arrivent.
Combien de soldats permanents, 25 000, c'est ça?
Permanents, 25 000, mobilisables, 50 000.
Attaque sur l'Iran de la part d'Israël commencera par un bombardement du Hezbollah. Parce que, évidemment, la réplique viendra en premier du Hezbollah, puisqu'il est tout proche. Donc, Israël n'attaquera pas directement l'Iran avant d'avoir attaqué le Hezbollah.
Ce que j'ai envie de dire, c'est que ce soit une réplique iranienne ou une réplique israélienne, et tout ça, nous sommes déjà perdants. Nous avons déjà perdu. Je veux dire, par là, personne ne parle plus de ce qui se passe à Gaza actuellement, ni en Cisjordanie.
Alors, on vient d'avoir une dépêche qui dit que l'ONU lance demain un appel aux dons de 2,8 milliards de dollars pour aider la population palestinienne, et 90% de cette somme serait pour Gaza.
Alors que notre lutte non violente, c'est surtout gagner l'opinion publique mondiale pour une application de droit international et pour une pression internationale sur Israël.
Droit.
Et donc, c'est foutu pour le moment. On ne parle que de l'Iran et que d'Israël. Oui, on est toujours affecté par tout ce qui se passe tellement qu'on se demande pourquoi ça a été fait et s'il y a derrière des complots ou des imaginations ou des théâtres ou tout ça, quoi. En tout cas, finalement, on est perdant pour tout ça.
Ouais. C'est vrai. Et en même temps, on sait maintenant, on le savait depuis longtemps, que le Proche-Orient ne sera jamais stable tant que la question palestinienne ne sera pas réglée.
Absolument.
Donc,
voilà.
Mais
il faut que le gouvernement israélien le comprenne.
Oui, mais certains ont intérêt à ce que ce conflit reste ouvert. Et ils sont très nombreux. Et vous avez aujourd'hui, pour aller très vite, une confusion, par exemple, sur la question de la reconnaissance d'un État palestinien par rapport à la question de la paix. Les gens disent, dès qu'il y aura un État palestinien, on aura la paix. Mais on peut avoir l'État palestinien, ne pas avoir la paix. Vous pouvez avoir la paix sans l'État palestinien.
Vous aurez probablement ça de la part de la République islamique iranienne, de toute façon, État palestinien ou pas, dans son fondement même, anti-israélien. Oui. C'est un pilier, c'est un des deux piliers de l'idéologie khoméniste. Je vois pas bien comment l'Iran d'un coup passerait dans le camp de la paix parce que les Palestiniens ont un État.
Ou le Hamas d'ailleurs. Même s'il y avait un État palestinien, le Hamas, son but c'est quand même encore de détruire Israël.
C'est un autre débat parce qu'ils ont changé dans la charte, mais que j'ai envie de dire, pour rappel, normalement on était censé de continuer les négociations avec les accords d'Oslo de 94 jusqu'à 99, 5 ans, pour régler tous les points importants dans les négociations et le dialogue israélo-palestinien pour avoir un État en 1999. Pourquoi il n'y a pas d'État? C'est à cause de la colonisation, de l'extrême droite, de la droite israélienne qui ne veulent pas un État palestinien et qui le disent depuis longtemps. Et ils ont tué Rabin, qui avait compris que la création d'un État palestinien peut être un premier pas pour une paix entre Israéliens et Palestiniens.
Et à cause du Hamas qui a détruit la gauche israélienne en 1996.
Mais justement, la création de Hamas a été favorisée par le gouvernement israélien justement pour torpiller toute tentative de paix.
Je rappelle que vous avez été ministre de la Culture de l'autorité palestinienne. Est-ce que le fait que cette question de la reconnaissance de l'État palestinien soit à nouveau sur la table, même si depuis effectivement l'attaque de samedi dernier, on n'en parle plus. Est-ce que cette question est importante? Je crois qu'il y a 9 des 27 membres de l'Union européenne qui ont déjà considéré la Palestine comme un État. On entendait qu'en Espagne, etc., et dans d'autres endroits, il y avait cette possibilité-là. Est-ce que ça, c'est important pour vous, Anwar Abou Haïché, ou pas?
Très important. Nous avons envie d'être un peuple comme des autres. qu'on ait un passeport sur lequel c'est écrit passeport seulement, pas un titre de voyage. Et qu'on vit comme les autres et que les organisations internationales et les instances internationales, qu'on soit égal aux autres. Alors, on ne l'est pas actuellement, on est juste derrière.
Et pour vous, monsieur l'ambassadeur Éric Danon, est-ce que cette question est centrale ou est-ce que c'est une des questions qu'il faut traiter ?
D'abord, symbolique, mais c'est un symbole incroyablement fort, la reconnaissance
d'un État.
État. Maintenant,
C'est l'Espagne, c'est l'Irlande aujourd'hui qui disent qu'il faudrait aller plus loin.
Absolument. Et de toute façon, il y aura un veto des Américains au Conseil de sécurité, donc punto, ça va s'arrêter là. Bon, le problème pour moi n'est pas là. C'est que le conflit est en train de changer. Côté palestinien, tel que vous le décrivez, un peuple pacifique qui veut vivre comme les autres, etc., j'ai pu constater au quotidien que c'est sans doute vrai pour une grande partie de la population. J'ai vu quand même les manuels scolaires à Ramallah et comment on apprend une forme de haine d'Israël.
Et les manuels scolaires en Israël, parce que ça, c'est un sujet.
Ah, mais je suis tout à fait.
C'est un sujet sur lequel j'ai travaillé, moi, personnellement, pendant des mois.
Ce soit clair. Vous avez des narratifs qui s'opposent violemment depuis un an, mais il y a aussi. Depuis un siècle. Mais vous avez aussi un système d'éducation qui fait que, je veux dire, quand bien même il y aura un État palestinien, vous aurez des générations qui ont été éduquées dans l'idée qu'il faut récupérer la terre d'Israël, que les Juifs sont les ennemis et que ce sont des voleurs de terre.
On arrive à la
dernière chose.
Je suis pas
la dimension religieuse du Hamas aujourd'hui et les gens qui tuent en disant Allah Akbar et pas Free Palestine, c'est très important. Certains disent que la dimension religieuse n'est que un truc parmi d'autres, par-dessus, et que le vrai problème reste séculier, politique, etc. Moi, je pense qu'il y a une vraie évolution des deux côtés, côté du Hamas et côté israélien, vers une radicalisation religieuse qui rend les problèmes encore plus difficiles à résoudre.
Je suis d'accord sur cet aspect-là, mais sur l'éducation et les livres aux écoles, non, je ne suis pas d'accord. J'ai suivi l'affaire, j'ai étudié, j'ai vu que, surtout dans les livres israéliens, dans les écoles, surtout religieuses, l'histoire, c'est vraiment... Et puis, c'est pas le même système, parce qu'en Israël, chaque professeur peut enseigner le livre qu'il veut. Alors que chez nous, c'est l'autorité qui décide les livres. Non, non, moi, je vois pas ce qui choquerait un observateur neutre.
Christophe Ayad ?
Je suis d'accord avec le fait que, de toute façon, on est face à des radicalismes religieux avec qui la notion, un, de terre n'a pas d'importance, ni de frontière, de temps non plus. C'est-à-dire, vous êtes face à des gens, le Hamas, qui disent, peu importe les pertes, un jour, on gagnera. Un jour, quand ? On ne sait pas, dans l'au-delà, peut-être, peu importe. L'important, c'est d'être martyr. Quant au Hezbollah, qui est mon client... c'est pas la naissance d'un État palestinien qui va faire cesser l'hostilité radicale et viscérale du Hezbollah à l'existence même d'Israël.
Merci à tous les trois, en tous les cas, d'avoir débattu de cette question. Les Palestiniens font-ils faire les frais du conflit entre Iran et Israël qui a redémarré ce week-end? Donc, merci à vous, Éric Danon, ancien ambassadeur de France en Israël de 2019 à 2023. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Anouar. Allez-y.
Cessez le feu, s'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît.
Anouar Abouaïche, donc ancien ministre de la Culture de l'Autorité palestinienne, professeur de droit, et Christophe Ayad, dont on peut lire l'excellent Géopolitique du Hezbollah qui vient de sortir dans une très bonne collection qu'il faut saluer aux Presses universitaires de France sur cette question géopolitique. Ça vient tout juste de sortir le mois dernier. Merci beaucoup à tous les trois. Le temps du débat a été préparé ce soir par Mathias Mégy, Juliette Moellic, Nina Richard, Roxane Poulain, Anouk Sevenot, Stéphanie Villeneuve, réalisé par Laurence Malonda avec Florent Bujon à la technique.